Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 31 mars 2024. On vient de terminer une semaine raccourcie pour cause de fête de Pâques. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, je me fonds quand même d'un Swiss Bliss pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette semaine assez ennuyeuse, on va le dire, qui s'est conclue par la publication du PCE et qui n'a pas fait bouger les marchés pour des raisons de marché à moitié fermé. On va faire un petit peu le point sur tout ça, voir où on en est. En tout cas, ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir encore une fois cette semaine, c'est que l'optimisme est de mise, que l'on voit que les choses positives, ça c'est clair et net. Personne ne voit le moindre danger sur ce qui se passe au niveau de l'économie. Personne n'est inquiet sur la suite des événements et tout le monde a plus ou moins compris ou rentré dans sa tête que les taux seront baissés. Aux États-Unis, en tout cas, dès le mois de juin, ça c'est quasiment une certitude. Hein. De nouveau, je reviens sur la même thématique, c'est la même certitude qu'on avait qu'on aurait les taux qui allaient baisser au mois de mars, il y a quelques semaines en arrière. Mais là, on est certain que les taux vont baisser au mois de juin. Alors la seule grande question qui commence à venir gentiment dans les marchés, c'est de savoir si cette baisse des taux sera la première de trois, ou est-ce que ce sera seulement la première et la dernière. Alors, on va pas se mentir, durant la semaine, on a passé tout notre temps à attendre le PCE, à supposer ce qui pourrait sortir du PCE pour les marchés, ce que ça pourrait avoir comme conséquence, comment est-ce qu'on allait l'interpréter, qu'est-ce qui se passerait après, et qu'est-ce qui pourrait éventuellement peut-être faire changer notre vision d'avenir des marchés en fonction du chiffre, en fonction de ce qui sortirait. Grosso modo, c'est sorti à 2,8%. Pile poil dans les attentes, en hausse de 0,3% par rapport à celui du mois dernier. Donc ça veut dire que l'inflation monte gentiment. Mais si vous écoutez les experts, si vous écoutez même la Fed, eh bien c'est ce qui était attendu. Et c'est normal, c'est simplement une inflation qui se stabilise gentiment en direction de la baisse. Et que là pour l'instant, elle fait des petits rebonds à la hausse, qui est selon eux parfaitement normal. D'ailleurs, il y avait encore Monsieur Powell qui parlait vendredi pour nous confirmer qu'effectivement, de leur côté, du côté de la Fed, pour eux, il n'y avait aucune surprise. Tout était en accord avec ce qu'ils attendaient. Donc vraiment aucune inquiétude à avoir. De nouveau, si on regarde les chiffres et qu'on enlève l'énergie, les loyers et la bouffe, eh bien c'est pas si mauvais que ça. Alors c'est vrai qu'encore une fois, c'est quand même pas des choses qu'on peut supprimer de notre vie, mais visiblement, Wall Street préfère interpréter ça de cette manière. Et ça, c'était plutôt encourageant. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que ce chiffre était positif, selon les interprétations qu'on en fait. Alors effectivement, maintenant, si vous lisez la presse de ce week-end, eh bien, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de gens aux États-Unis qui commencent à dire « Ok, l'inflation est plus ou moins sous contrôle, mais quand on voit comment elle remonte, soit le CPI, le PPI ou le PCE maintenant, eh bien, ça laisse supposer quand même qu'à un certain moment, on va avoir la possibilité d'imaginer que les taux ne baisseront pas tant que ça. » Alors, il y a ceux qui disent que ça ne baissera pas du tout, parce qu'ils parlent du principe que ça va rester élevé pour longtemps pour continuer à maîtriser cette inflation, donc ce qui pourrait laisser supposer qu'à très court terme, les gens commencent à dire « Ouais, peut-être qu'ils baisseront pas en juin. » Et puis, il y a ceux qui disent qu'il y aura une baisse de taux en juin, et puis après, plus rien du tout. Alors, ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Et c'est la grande question dont on va débattre ces prochains temps. Et la réponse, on pourrait avoir un embryon de réponse avec les chiffres de l'emploi qui sortiront en fin de semaine. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, autant la semaine dernière, on aura passé notre semaine à attendre le PCE, autant cette semaine, on va attendre la sortie des chiffres de l'emploi pour en faire notre interprétation. Oui, parce qu'on sait tous que la Fed a deux axes, l'inflation et l'emploi. Et Monsieur Powell a donc dit que l'inflation, pour l'instant, on voyait qu'elle repartait gentiment à la hausse, mais que c'était gérable. De l'autre côté, la seule chose qui pourrait le forcer à baisser les taux plus vite que prévu, eh bien, c'est le marché de l'emploi qui s'effondrerait. Alors, on va pas revenir sur les chiffres magouillés et interprétés de manière différente en fonction des mois du côté des services gouvernementaux. Mais en tous les cas, les chiffres de vendredi, les non-farm payrolls, nous donneront une bonne indication de cette éventuelle faiblesse du marché de l'emploi, même si les différents rapports qu'on voit régulièrement, comme les jobless claims qui sont sortis la semaine dernière, restent plutôt encourageants et montrent un marché de l'emploi relativement solide. Et c'est ce qui pourrait nous empêcher pour l'instant d'envisager une baisse des taux. Mais encore une fois, si on regarde les futurs et les statistiques et les sondages, tout le monde, on va dire c'est quasiment 80% du marché qui s'attend à une baisse des taux en juin. à peu près les mêmes 80% qui attendaient une baisse des taux en mars. Après, si on creuse un petit peu plus loin dans ces chiffres de l'inflation, il faudra aussi retenir une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez la hausse des marchés, cette hausse dans laquelle nous sommes depuis début novembre, eh bien, il est aussi extrêmement compliqué d'imaginer de voir une inflation ralentir, alors que finalement, quand vous voyez la hausse de la capitalisation boursière américaine, ça veut aussi dire que comme les Américains sont très investis en actions, ils en ont tous plus ou moins bénéficié. Enfin, ceux qui avaient les moyens d'investir. Donc du coup, vous avez des fortunes qui augmentent, donc quand vous avez votre fortune qui augmente, vous dépensez un petit peu plus, et si vous dépensez un petit peu plus, vous maintenez une inflation relativement élevée. Ceci pourrait expliquer cela, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger, et qui va continuer à supporter une inflation élevée. Plus le marché va monter, plus ça va aider aussi l'inflation à garder cette espèce de pente légèrement ascendante dans laquelle nous sommes depuis maintenant 3 mois. Et puis ce qu'il faut pas non plus négliger, c'est que si vous regardez, il y a un graphique assez intéressant, une statistique assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les dépenses de l'américain moyen, eh bien vous verrez que la partie taux d'intérêt, remboursement de la dette, est en hausse et dorénavant représente 3% des dépenses personnelles de l'américain. Ce qui veut dire que sur la masse des totales des dépenses, eh bien 3% sont alloués aux intérêts de la dette, si on veut bien. Et ça, faut exclure les mortgages, les hypothèques. Donc, on parle uniquement des dettes de carte de crédit ou des crédits tout simples. Résultat, ce chiffre-là, peut-être, ça veut rien dire pour vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, on était à 1,6%. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc, il y a de plus en plus d'argent qui est alloué à rembourser la dette. Ce qui laisse dire à certains que finalement, aujourd'hui, eh bien, on combat l'inflation avec de la dette, tout simplement. Et ça, c'est jamais très bon sur le long terme. Mais en même temps, c'est exactement ce que fait le gouvernement américain, puisqu'aujourd'hui, mis à part emprunter de l'argent et le dépenser derrière, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Autrement, du côté de la Suisse, eh bien, il faudra noter que le FMI a déclaré s'attendre à une croissance du PIB de 1,3% en Suisse. Et puis, de l'autre côté, le même FMI s'attend à une inflation de 1,5% pour l'année 2024 en Suisse. Suisse qui a donc baissé les taux il y a 10 jours en arrière, je vous le rappelle. Et puis, autrement, si on regarde le baromètre du COF, qui a le baromètre économique en Suisse, il est sorti la semaine dernière également, est légèrement en baisse, il se stabilise plus ou moins en dessous de sa moyenne à long terme autour des 101,5. Bref, l'un dans l'autre, c'était pas une catastrophe, mais ça baissait un tout petit peu sur le baromètre du COF. Et puis en conclusion de cette courte revue, il faut pas oublier non plus, la semaine était courte bien sûr, mais il faut pas non plus oublier qu'on a battu des records d'altitude sur le CAC, sur le DAX, sur l'indice italien, sur l'indice espagnol. Le seul qui a pas battu des records, c'est la Suisse. Le S&P 500 termine sa semaine au plus haut de tous les temps. Donc on bat des records tout azimut. Vous avez également l'or qui a battu un record historique également. On est au plus haut de tous les temps sur l'or. À la dernière minute, on était à 2 252 $ sur l'once. Donc ça continue de monter. Le Bitcoin est revenu au-dessus des 70 000 $. Et puis le pétrole, n'oubliez pas le pétrole, se traite à 83,11 $ sur le WTI. Donc il est sorti de la zone des 82 et continue de monter gentiment. Et comme d'habitude, personne n'en parle. Et puis il y a aussi une chose que j'aimerais juste mentionner dans ce Swiss Bliss, c'est la thématique du Bitcoin, qui n'a rien à voir avec le Swiss Bliss à la base. Mais si vous regardez par exemple la société qui s'appelle MSTR, MicroStrategy aux États-Unis. MicroStrategy est une société qui a simplement pour business plan d'acheter du Bitcoin et puis de laisser monter le Bitcoin. En gros, ils financent, ils empruntent de l'argent et avec l'argent qu'ils empruntent, ils achètent du Bitcoin et le résultat, eh bien le titre a explosé ces derniers temps. Mais si on regarde la valorisation de la société qui pèse aujourd'hui autour de 29-30 milliards de capitalisation boursière, et que vous regardez le nombre de bitcoins qu'ils ont à l'intérieur, parce que vous ne l'aurez pas, ils font rien d'autre que d'acheter du bitcoin, donc on peut estimer que la valorisation de la société est représentée par les bitcoins qu'ils détiennent, et aujourd'hui leur valorisation de bitcoin se situe autour de 15 milliards, ce qui veut dire que vous avez une boîte qui vaut 30 milliards, et qui a une fortune détenue dans ses coffres, façon de parler, de 15 milliards. Donc il y a un hedge fund manager qui expliquait ce week-end que son trade à lui, c'était d'acheter du Bitcoin et de shorter MicroStrategy le temps que les gens se rendent compte que c'était complètement ridicule d'avoir un titre qui se traite à des valorisations pareilles alors qu'il ne possède que 15 milliards en Bitcoin. Si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien vous voyez le Nikkei qui termine en baisse de 1,27%, le Nasdaq qui perd 0,3%, Bon, il faut dire que tout le monde était surtout concentré sur la performance trimestrielle, hein, et pas la performance de la semaine. D'ailleurs, vous le voyez, hein, sur le year to date, eh bien, le YTD, la quatrième colonne en partant de la gauche, eh bien, vous avez le Nikkei qui prend quand même 20,6% sur les trois premiers mois de l'année, le Nasdaq en hausse de 9, le SOX en hausse de 17,46, ça c'est pour le trimestre. Mais sur la semaine, vous voyez que les performances sont pas stratosphériques. On a le Dow Jones qui termine en hausse de 0,84%. Mais les taux plus hauts de tous les temps, tout comme le S&P 500. Et puis, on notera le DAX qui continue de monter pour des raisons qu'on a de la peine à comprendre, que j'ai de la peine à comprendre. Même chose sur le CAC 40. Le SMI prend 0,67%, mais on est bien loin des plus hauts historiques. Et puis, comme je vous le disais, le pétrole qui prend 3,08%, l'or qui prend 3,9%, et le Bitcoin qui est en hausse de 4,6% sur la semaine. Le SMI, c'est Swisscom qui est en tête. Alors, Swisscom qui est un veau habituellement, semble retrouver des couleurs depuis le rachat de cette division italienne il y a quelques semaines. Ensuite, celui de Kuhn & Nagel, Richemont qui récupère après sa claque de la semaine précédente. Et de l'autre côté, on a Givaudan qui terminait en baisse de 2%, ainsi qu'ABB. Mais il faut dire que Givaudan perdait 2,7% et ABB également dans la même amplitude. Mais il faut dire que ces deux-là ont détaché leurs dividendes. Et c'était pas les seuls, parce que cette semaine, il y avait pas mal d'actions qui détachaient leurs dividendes. On citera au passage donc ABB et Givaudan, puis BB Biotech, Oerlikon, Swiss Prime et EFG qui ont toutes payé leurs dividendes. Donc du coup, vous aurez peut-être certaines surprises, comme on le voit sur la performance du SMI cette semaine, enfin des membres du SMI de cette semaine. Et on part sur le point technique. Alors là, nous avons déjà le SMI qui a donc vécu une relativement bonne semaine. On l'a vu, hein, 0,67% de hausse sur la semaine. Alors la chose positive, c'est que si on regarde un peu sur le long terme, on s'inscrit vraiment de plus en plus dans cette tendance haussière, dans cet immense canal haussier dans lequel nous sommes depuis un bon moment, depuis septembre 2022. On voit qu'on est bien revenu dedans après cette espèce d'incident de parcours qu'on a eu à cette époque-là. On est bien inscrit à l'intérieur et c'est plutôt encourageant pour l'avenir des marchés. On voit que maintenant, on a une tendance qui est en train de se dessiner ici, gentiment, une tendance un peu plus verticale, on va dire, qui va nous propulser probablement en direction des 12 000 maintenant. C'est l'objectif attendu sur le SMI, mais ça se passe pas trop mal en ce moment. Après, si vous regardez sur le long terme, eh bien, vous voyez qu'on a quand même un petit bout de chemin à faire avant d'aller rechercher ces plus hauts historiques qu'on a ici et qui datent, qui nous ramènent gentiment en 2022. Et voilà, donc il va falloir encore cravacher un bon bout, et sans le retour des pharma et de Nestlé, ça va être extrêmement compliqué de retourner tout là-haut. Petit détour donc par l'Europe. Ici, nous avons le CAC 40 000 qui n'arrête pas de battre des records. Alors, on termine pas la semaine au plus haut de tous les temps sur le CAC. Mais encore une fois, vous voyez qu'on a clairement battu de nouveaux records. Alors après, ceux qui sont négatifs seront inquiets par le candlestick de clôture sur le CAC 40 qui laisse supposer qu'on est en train de buter sur une espèce de résistance dans la zone des 8200. Et donc on pourra en voir peut-être une petite correction. De toute façon, vu la hausse de ces derniers temps, ça serait pas malvenu. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est la force relative des indices européens malgré les chiffres économiques qui sont plus que douteux en Europe. Le DAX, c'est pareil, vous voyez, hein, le DAX n'arrête plus de monter. On est quand même passé, si on prend depuis le mois de janvier, on était à 16 300 au début du mois de janvier, on est à 18 500 sur le DAX. C'est juste incroyable, ça n'arrête pas de monter. Et là aussi, les nouvelles économiques sont pas phénoménales, mais ça continue de monter. Puis si alors après on veut aller chercher des tendances, on a maintenant des tendances haussières sur le DAX qui sont impressionnantes. Peut-être un peu trop, hein. Alors moi je suis un peu prudent, j'aime pas quand ça monte comme ça sans grande raison fondamentale. Mais enfin, tout le monde est chaud bouillant, mais vous voyez qu'à chaque fois ça accélère, qu'on augmente la pente de la hausse, et ça, au bout d'un moment, forcément, on peut pas non plus monter verticalement. Donc à un moment donné, il va falloir quand même revenir à la réalité. Mais il y a tellement de gens qui essayent de shorter le DAX pour jouer le retour et ça ne revient pas, que forcément ça continue à l'auto-alimenter. Il y a qu'à voir ailleurs, hein. Milan, c'est pareil, l'Espagne, c'est pareil, on a eu des chiffres de l'inflation assez forts en Espagne cette semaine, mais rien à faire, ça continue, vous voyez que l'Ibex termine au-dessus des 11 000 points. Et puis alors aux États-Unis, là aussi, hein, on parlait de pente, c'est extrêmement raide, hein, le S&P 500 qui continue dans sa tendance haussière, pour l'instant toujours pas de signe de renversement. On notera que le RSI reste quand même extrêmement élevé là derrière. Donc à surveiller quand même. Le Nasdaq ne termine pas au plus haut de tous les temps. On sent une espèce de fatigue quand même. Hein. On va pas se mentir. On a quand même l'impression que le Nasdaq, il est moins dynamique qu'avant. Vous voyez que la pente, c'est en train de s'inverser. Justement, cette fois, on voyait tout à l'heure sur les indices européens qu'elle s'accélérait. Et là, celle-ci est en train de se calmer. Donc attention quand même, on sent une petite fatigue. On parle beaucoup de valorisation de la technologie. Et si vous regardez le SOX, qui est censé être le leading indicator, bah vous voyez que là aussi, eh bien pour l'instant, on hésite. On hésite dans cette zone-là. On n'arrive plus à casser, à faire de nouveaux records sur le SOX. Donc attention quand même de ce côté-là. On a vu la semaine dernière comme quoi il y avait certaines boîtes américaines qui avaient été interdites ou qui allaient être un peu blacklistées dans le gouvernement chinois au niveau des semi-conducteurs. Et donc on sent une espèce de fatigue globalement dans la tech quand même pour l'instant. Alors on sait que la tech peut repartir de manière assez spectaculaire, on la connaît, mais pour l'instant on voit que ça ralentit un tout petit peu. Et puis pour terminer, le Dow Jones, alors vous voyez là aussi au plus haut de tous les temps, là je crois pouvoir dire sans me tromper que le Dow Jones va aller chercher les 40 000 juste par principe, hein, parce que comme d'habitude on sait que les Américains ils adorent les chiffres ronds, donc on va aller chercher les 40 000 histoire que les gars puissent vendre leurs t-shirts et leurs casquettes qui sont certainement déjà imprimées. Mais là aussi, on voit que bon, il y a aussi une espèce de repondération. Si le Dow Jones est au top comme ça, c'est aussi parce que à l'intérieur du Dow Jones, vous avez des titres un peu plus défensifs et on voit que les gens, comme je le disais avant, se dégagent un peu de la tech pour aller se positionner sur des trucs un petit peu plus tranquilles, qui paye du dividende. D'ailleurs, si on regarde un petit peu dans les médias à droite, à gauche, on voit qu'on nous parle beaucoup de dividendes de nouveau. Juste pour la photo, l'or, donc au plus haut de tous les temps, hein, vous le voyez, c'est spectaculaire. On a mis le temps, mais ça continue de monter. Difficile de dire où est-ce que va aller l'or. Hein. On voit ici que ça commence à être quand même pas mal suracheté dans cette zone-là. Autrement, eh bien, on peut logiquement aller se dire, vu l'amplitude du mouvement entre les 1800 ici et la cassure là, qu'on peut se faire grosso modo 400 points, 400 dollars de hausse. Je dirais que le premier objectif, il se situe autour des 2400 sur l'or. Ça reste assez impressionnant. Et puis dans les périodes de tension politique que nous vivons aujourd'hui et d'instabilité géopolitique, on l'a dit et répété plusieurs fois dans ces vidéos que Monsieur Powell a déclaré quand même que la seule chose qui pouvait faire dérailler le marché, c'est la géopolitique. Eh bien, on sent quand même que les gens sont très tendus et sont prêts à acheter assez facilement de l'or. Et on termine ce point technique avec le pétrole. Alors ça, je vais vous bassiner toute la semaine parce que plus ça va, plus je suis convaincu que ça va continuer à monter, ce truc-là. On a une résistance sur les 84,5, on va dire. Si ça casse ici, on va avoir une accélération sur le baril. Et n'oubliez pas quand même que ça reste un point très, très important dans dans l'inflation, dans la consommation. On le ressent tous, hein, du moment où le baril s'envole, le prix de l'essence s'envole, et on le ressent tous d'une manière ou d'une autre. Et puis vous noterez, bien sûr, alors c'est pas le truc le plus représentatif du marché, mais nous avons une golden cross qui s'est dessinée sur le graphique du WTI. Donc attention à toute accélération qui pourrait se produire sur le pétrole, parce que pour l'instant, je reste encore une fois assez bluffé sur le fait que tout le monde s'en fout et qu'on n'en parle que très peu dans les médias financiers. On attaque avec les vedettes de la semaine. Alors je commence tout de suite avec le graphique de Strowman parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez que bah, après ces derniers temps, pas mal de déceptions sur Strowman. On est revenu se positionner sur la moyenne mobile des 50 jours et cette semaine, on a eu deux upgrades assez importants de la part de Deutsche Bank et de la part de Barclays qui ont upgradé Strowman, ce qui justifie ce petit rebond sur le titre. Et puis là, nous avons Swisscom. Alors Swisscom, vous voyez cette espèce de, comme je vous l'ai dit avant, hein, c'était le veau de la côte. C'est un truc qui ne foutait rien depuis des mois. Depuis le rachat qu'ils ont fait en Italie, tout le monde a plongé dans les comptes et s'est rendu compte que c'était quand même très relutif pour Swisscom. Et cette semaine qui vient de se terminer, nous avons eu un upgrade assez important de la part de Morgan Stanley. Alors, c'est pas ceux qui pèsent le plus en Suisse, mais quand même, Morgan Stanley avait un target sur Swisscom qui était ici à 650, et ils ont augmenté leur target cette semaine, et ils sont passés à 750 sur Swisscom. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, tout le monde a commencé à s'exciter sur le titre, et je vous laisse voir le potentiel de hausse que ça nous ferait. Et si Swisscom venait à se réveiller, et puisqu'on parle de réveil, eh bien, on peut aussi, on parlait tout à l'heure de Golden Cross, aussi signaler et qu'effectivement ici on est en train de préparer une Golden Cross sur Swisscom. Donc courir après aujourd'hui, difficile, mais on peut quand même se dire que quelque part sur faiblesse, eh bien il faudra peut-être venir se repositionner dessus, même si je vous l'avoue et je vous l'accorde, c'est pas du tout mon titre préféré sur le marché suisse. Autrement, dans les autres noms, on a Baloise qui a publié des chiffres un petit peu décevants. Hein. Ils ont montré une contraction du volume d'affaires pour l'année précédente. Ils ont revu leur stratégie, ils revoient leur stratégie d'investissement extensif, surtout dans le domaine de l'habitat et de la mobilité. Et puis, ils en tirent les conséquences, mais l'un dans l'autre, ils ont quand même proposé de relever le dividende de 30 centimes à 7,7 francs par action. Pas un gros impact sur le titre, nouvelle qui n'a pas intéressé grand monde, puisque sur l'annonce, le titre perdait 0,2%, autant vous dire que c'était le désintérêt total. Si on regarde le titre de la Baloise, alors voilà, on est revenu se positionner, on a rebondi parfaitement où fallait rebondir sur la moyenne mobile des 200 jours, et puis on essaie de repartir à la hausse. Alors on l'a vu, un espèce de mea culpa de la part de la direction. Est-ce que ça a fait revenir un petit peu les acheteurs à ce niveau-là? Mais vous voyez que par rapport aux autres assurances, c'est pas le titre qui cartonne le mieux, en tout cas en termes de performance. Par contre, il y a quand même un dividende de 7 francs 70 à récupérer là-dessus par année. Dans les autres petites histoires de la semaine en Suisse, on peut parler de Lindt. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Lindt? Parce que d'abord, c'est Pâques et que c'est la période du chocolat. Mais aussi parce que, bien évidemment, vous avez vu, le cacao a littéralement explosé. Et c'était assez intéressant parce que je suis tombé sur un article sur Lindt Sprüngli durant la semaine et le journaliste expliquait en disant « Ouh, Lindt Sprüngli est sous pression à cause de la hausse du cacao ». Alors voici le chart de Lindt Sprüngli. Alors vous voyez qu'effectivement, si on reprend ce qui s'est dit la semaine dernière, le titre se traitait autour de 10 790 et on est descendu à 10 680 et des poussières sur Lindt Sprüngli. Hein. Donc ça, c'est la pression à cause de la hausse du cacao, ce qui était écrit dans les journaux. C'est pas moi qui le dis, je l'ai pas inventé, c'est ce qu'il disait dans les médias. Ça, c'est le cours du cacao. Voilà. Hein. Donc le cours du cacao, sur la même période où Lindt Sprüngli a perdu 3%, à tout casser, ou 2%, le cacao, il est monté de 8 500 $ la tonne à quasiment 10 000 $ la tonne. Bon, je pense pas qu'il y ait une logique de cause à effet. Et puis si vous regardez la performance du cacao depuis, allez, on va dire janvier 2024, on était à 4 000 $ la tonne, donc on est à quasiment 10 000 $ la tonne. Je crois pas qu'on peut vraiment tirer des parallèles. Alors oui, certainement que Lindt Sprüngli ont des marges qui sont un petit peu sous pression à cause de la hausse du cacao, mais j'ose supposer qu'en général, ces gens qui consomment et qui utilisent beaucoup de cacao, comme on l'a déjà vu à moult reprises sur des titres comme Nestlé, on dit toujours « Oh, attention, la hausse des céréales, c'est mauvais pour Nestlé ». Oui, mais en fait, en même temps, ces gars-là, ils ont des salles de trading, ils ont des gens qui hedgent les contrats avec des options et des futures. Résultat, c'est difficile de dire quand même quelque part que la hausse du cacao a un impact direct sur le cours de Lindt Sprüngli. Oui, sur les performances de la société, ça risque de se ressentir sur le long terme avec une pression sur les marges, mais c'est pas non plus ultra corrélé. Comme si chaque hausse de 5 $ sur le contrat du cacao avait un impact direct sur Lindt Sprüngli. Accéléron, qui fabrique des turbocompresseurs, a annoncé un chiffre d'affaires de 914 millions de dollars, en hausse de 17,2%. La marge opérationnelle s'est un peu érodée d'une vingtaine de points à 24,4%. Mais ce qui n'empêche pas que l'EBITDA remontait à 223 millions et les actionnaires vont avoir un dividende de 85 centimes contre 73 centimes l'année passée. Donc une relativement bonne nouvelle du côté de chez Accéléron. On notera aussi Lonza. Lonza, je crois qu'ils ont battu le record d'upgrade et de commentaires positifs de la part des analystes. Depuis le début de la semaine, on a eu que ça, hein, que des upgrades, que des recommandations positives sur Lonza depuis les récentes annonces de la semaine précédente. Donc vraiment un avalanche de commentaires optimistes et d'upgrades sur les price targets, d'amélioration des recommandations. Bref, que du bonheur du côté de chez Lonza. Et vous le voyez que ça se ressent sur le titre, hein, une belle semaine d'upgrade. Après les annonces, un arrêt pas de montée. Donc un retour, j'ai envie de dire, en grâce ou en gloire chez Lonza, qui d'ailleurs a également construit une Golden Cross sur son graphique. Et puis on terminera avec l'UBS qui a réévalué ses résultats 2003 parce qu'ils ont réévalué le prix d'acquisition des actions Crédit Suisse. Alors on sait qu'ils avaient fait un gros carton là-dessus parce qu'ils ont racheté ça à la casse et puis que ça valait quand même beaucoup plus. Résultat, ils avaient annoncé 29 milliards de bénéfices et puis finalement, après après correction, c'est 27,8 milliards. Alors, vous me direz à ce niveau-là, 1,2 milliard. Ça intéresse qui? Néanmoins, il y a eu un petit peu de pression sur le titre durant la séance de cette annonce. Et puis surtout, on a eu droit au FMI qui est venu commenter le rachat de Crédit Suisse par UBS. Et le FMI nous disait quand même à demi-mot qu'il serait quand même bon de renforcer la surveillance dans le domaine bancaire. Parce que du coup, bah, UBS, ils avaient quand même un peu la tronche du gars qui a le monopole sur le marché suisse. Alors, on sait que les monopoles, c'est tout relatif, mais enfin, voilà, à l'époque, quand il y avait que trois grosses banques, on nous disait, oulala, c'est limite. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, quasiment. Autant vous dire que c'est encore plus limite. Mais bon, visiblement, ça a choqué personne lors du rachat de Crédit Suisse. Mais le FMI le mentionne quand même quelque part. Alors, c'est pas lui qu'on va écouter forcément, mais voilà, attention au monopole. On a vu ce que font le département de la justice aux États-Unis du côté du monopole d'Apple. Ils ont décidé de leur tomber dessus. Alors, on peut pas exclure qu'un jour, peut-être, quand on aura changé de conseil fédéral et changé de patron à la BNS, il y en aura un qui aura envie d'enquêter un petit peu sur le côté monopolistique. Mais ça, c'est une histoire d'avenir éventuel. Néanmoins, l'UBS s'est un petit peu fait secouer sur la journée et sur la semaine. Mais rien de bien grave fondamentalement. Voilà ce que l'on pouvait raconter de cette semaine tronquée par le week-end de le week-end pascal, tronquée et puis surtout obsédée par les chiffres du PCE qui finalement nous ont accouché d'une souris avec quasiment zéro impact sur les marchés pour le moment. On verra ce que tout le monde va ramener dans les marchés ces prochains jours. Ce sera encore fermé partiellement lundi pour cause de lundi de Pâques et on va rattaquer pour de vrai avec une vraie semaine dès mardi matin avec en point de mire les chiffres de l'emploi américain. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour ce Swiss Bliss. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swiss Côte en français comme d'habitude, à liker cette vidéo et à me retrouver mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour une nouvelle vraie semaine de bourse. Passez un excellent week-end, mangez pas trop de chocolat parce que c'est devenu très très cher, et puis à mardi, bye bye.